sûr.
Oui, c'est bon.
Aujourd'hui, je mets le feu et je bouquine.
Je vous propose non pas une, mais deux dégustations à l'aveugle.
Aujourd'hui, je chevauche un flamant rose qui vous emmène du sud-ouest à la Bourgogne.
Je vais vous parler d'un lieu dans le Loiret où il fait bon vivre et de boissons sans alcool, mais néanmoins délicieuses.
Douyou, Saint-Tropez. On peut boire frais et nature à Saint-Tropez.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster. C'est notre dernier dimanche avant nos programmes d'été, mais pour cette dernière, pas d'invité, pas de menu imposé, pas de chronique formatée, mais un joyeux... bordel, non pardon, un délicieux casse-croûte de fin de saison, entièrement concocté par la bande dont va déguster. On a plein de choses à vous mettre sous la dent pour cette dernière et pour vous garantir un été savoureux et nourrissant. De nouvelles tables, des lectures alléchantes, des recettes immanquables, des initiatives solidaires, sans oublier quelques cuvées à déboucher. Et pour vous servir, je demande, dans la grande famille dont va déguster, celles et ceux dont vous avez d'ailleurs peut-être reconnu la voix dans l'entame de cette émission, à la seule note de leur timbre, c'est Elvira Masson, Laurent Delmas, Antoine Gerbel, Zazie Tavitian et Éric Morin. Salut les copains et les copines.
Salut tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien?
Super, ça va.
Ah, ils ont le sourire aux lèvres.
C'est les vacances.
Ils ont l'estomac en bandoulière. À mon avis, il va falloir que je tienne la classe. Elle est un peu dissipée pour ce dernier jour, juste avant les vacances. Eh bien, écoutez, on va se régaler tous ensemble. Vous avez chacun apporté vos bons plans pour nous les faire partager. Et tous ces plans gourmands de l'été, ils sont d'ores et déjà à consulter en détail sur franceinter.fr, à la page « On va déguster ».
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Ça commence fort, vous connaissez mes petites manies, histoire de réveiller tout le monde et de mettre vos papilles en alerte. J'aimerais vous faire goûter quelque chose à l'aveugle, c'est dans un petit gobelet que vous avez sous vos micros. Je n'en dis pas plus, allez, on peut dire raisonnablement que c'est un condiment.
Ça en a l'air en tous les cas.
Laurent.
Oui, ça en a l'air. Écoutez, voilà, ça ne va pas vous plaire ma réponse, mais elle est spontanée. Moi, je retrouve un goût, une odeur, une saveur que j'adorais étant enfant et que je continue d'adorer étant adulte, c'est de l'encaustique pour les meubles. Voilà, ça ne vous... Ça
vous savez que ça ne se mange pas, l'encaustique,
Laurent. Ça s'appelle un compliment.
Ça ne se mange pas, mais quand même. Mais c'est bien que des choses en évoquent d'autres. Et à part ça, du poivre vert en concentré.
Voilà. Ouais.
Et la couleur, Laurent?
La couleur, c'est pas de l'encaustique.
Kaki. J'ai toutefois entendu quand même le nom d'un ingrédient qui m'intéresse, Elvira.
Ah, vraiment, ça chauffe la langue, c'est du poivre vert aussi, je pense. Oui. La couleur nous l'indique aussi. Mm-hmm. C'est un peu vinaigré.
Oui.
Ça fait un peu moutarde de poivre vert.
Un peu d'acidité.
Oui.
Et ça serait un bon substitut à de la moutarde, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va être en pénurie de moutarde.
Beaucoup plus long en bouche que la moutarde.
Ah oui.
Très persistant.
Une longueur.
Antoine?
Oui, très très persistant. Donc pour ça qu'on pense au poivre.
Avec une saveur plus verte.
Oui, plus verte.
De la moutarde de poivre?
Saveur poivrée, avec de la verdeur et de la fraîcheur. Je crois que vous avez quasiment la réponse, Éric Morin.
Je ne l'ai pas, mais ça m'a complètement envahi le palais.
Oui.
Et ça m'a débouché le nez pour 2 ans.
Vous sentez une petite touche de sucre aussi quand même?
Légèrement, oui.
Légèrement.
Oui, oui, oui. Sur quoi vous variez cette sauce?
Sur une viande, moi je me dis une entrecôte.
Très bien.
Canard.
Oui, très bien.
Même une viande blanche froide.
Même un petit carpaccio. Ça peut remplacer effectivement une moutarde, ça peut remplacer un peu notre ami le tabasco.
Si on n'aime pas trop citer
de marque, et ben vous l'avez, fraîcheur végétale, du piquant, du pimenté. C'est du poivre vert originaire de Kampot. Et voilà, et du poivre vert comme on a l'habitude depuis la nouvelle cuisine et les années 70 de le déguster en grappe, même s'il faut bien avouer que le poivre vert on n'en mange pas tous les jours, c'est un produit qui reste assez rare. Et bien figurez-vous que ces grappes de poivre vert sont récoltées à la main à Kampot, on est donc au sud du Cambodge. Pendant les 3 mois de récolte, les grains de poivre frais sont alors immédiatement broyés et cuisinés avec, alors bon, des feuilles de moringa et des feuilles de pandam. Ça apporterait des goûts vanillés et de la fraîcheur. Et ça renforce un peu la couleur verte, même si là, ça a un peu tourné légèrement marronasse. Il y a un peu de vinaigre, il y a du jus de citron vert, ça c'est la fraîcheur qu'avait détecté notre ami Zazie. Il y a un petit peu de sucre de palmier, on sent aussi un peu de rondeur qui donne les choses intéressantes. Et effectivement, c'est un très bon produit, mais surtout, c'est un produit qui a une très belle histoire. L'histoire de Nathalie Chaboch et Guy Poré, écoutez bien. Un couple de Français qui, en 2013, font un voyage touristique au Cambodge. Ils tombent amoureux du pays, ils tombent amoureux de ses habitants, et en particulier de la région de Kampot, Où pousse ce poivre légendaire de Campote? Il décide, après une longue carrière dans l'informatique, de changer de vie, de partir au bout du monde pour créer une plantation de poivre et d'épices et pour participer activement à la renaissance du poivre de Campote. Il fonde la plantation qui est vraiment le nom de leur ferme. Et ben, c'est une ferme exemplaire et engagée où ils produisent des épices par lot de petite série. Et aujourd'hui, ils ont créé un véritable village écosystème avec 130 emplois justement rémunérés, un modèle équitable de production, des sessions de formation pour faire évoluer les salariés et des méthodes de culture parfaitement durables et biologiques, culture en permaculture, etc. Ces poivres et ces épices sont proposés en direct producteur sur les tables des chefs et des gourmets. Et la plantation, écoutez bien, ça commence à avoir énormément de succès, et même dans le monde entier, parce que ce sont vraiment des épices hautement qualitatives. Ils produisent également du gingembre, du curcuma en poudre, et tout ça dans ce petit coin du sud du Cambodge. Et cette sauce au poivre vert signée La Plantation a gagné, figurez-vous, la médaille d'or dans la catégorie condiments des prix Épicure de l'épicerie fine. Je peux vous assurer que c'est un concours extrêmement sérieux. Voilà. Bon, bah, c'est goûté, approuvé.
Approuvé, oui, complètement.
Totalement approuvé.
Merci les amis pour mitonner cette émission avec nous derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Philippe Duclos et Nadia Chougui. Et pour notre émission d'été, l'ami Djoubaka a choisi ça. Dondini, Laila Makala, une artiste d'Haïti qui raconte dans cette chanson la création de son pays. Bonnes ondes, bonne chair, bonne humeur. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous souhaiter un sapi d'été.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson souffle sur les braises et son été sera BBQ ou ne sera pas BBQ comme...
Barbecue, évidemment.
Oui, et c'est là que ça se passe hein, en ce moment, sur le barbecue. Et c'est sur le barbecue que vous avez préparé votre recette d'inspiration argentine.
Pas vraiment, parce que je ne suis pas encore en vacances. Donc si j'étais en vacances, ce serait évidemment barbecue.
Mais non, comment vous avez fait alors ?
J'ai joué avec la flamme de ma gazinière pour faire brûler des oignons. Alors j'ai failli mettre le feu, c'est-à-dire que j'ai installé les oignons sur le gaz et puis je suis partie faire autre chose.
Ah mais attendez,
voilà. Sinon ça sentait.
Flamme directe.
À flamme directe, comme on fait avec une aubergine, qu'on crame pour faire un caviar d'aubergine. Bah, j'ai tenté l'expérience avec des oignons rouges entiers. Non pelé. Alors vous savez que je suis un peu une voleuse, hein. J'aime bien shipper des recettes à droite à gauche. Cette fois, c'est à Mauro Colagreco, rien de moins, que je me suis attaquée. C'est le chef argentin du grand restaurant Mirazur à Menton.
Trois étoiles au guide Michelin, quand même.
Trois étoiles, bien sûr. Alors, c'est pas une recette vraiment de chef que je lui ai shippée, c'est plutôt une recette de chef au repos. Elle est hyper simple, c'est une recette de feu de bois, d'asado, cette grande tradition argentine de cuisine à la braise. Mm-hmm. Il s'agit de la, pardonnez mon accent, ensalada de cebollas asadas.
Ben c'est parfait, hein, vous avez un bon accent, hein, moi je dis.
Une salade d'oignons cuits à la braise, tirée d'un livre qui s'appelle Le goût de la famille, mon carnet de recettes. Donc, de Mauro Colagreco, avec Daniel Gerkins. Il était chez Hachette Cuisine. Et ça, ça va être la recette que je vais faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à toujours.
Elle est formidable. Je crois même pouvoir dire qu'elle emporte l'adhésion. On va donner la parole à Zazie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je trouve ça délicieux. Moi, je trouve que l'oignon, c'est toujours à côté, alors que ça devrait souvent être l'ingrédient principal.
C'est vrai.
Et il y a un peu ce truc quand on mange un plat où il y a l'oignon qui est resté, qui a confit et tout. On est trop content de tomber dessus, mais il y en a un à se partager pour 15. Et là, c'est vraiment.
Rien que ça.
Voilà.
En fait.
C'est vraiment l'oignon comme on l'aime. Donc, ultra confit, savoureux, avec la coriandre qui donne un peu de fraîcheur comme ça.
C'est confit, mais ce que j'aime,
c'est croquant.
Vous avez concentré un peu le sucre, mais comme dit Laurent, il y a aussi encore un peu d'al dente. C'est ça qui est
encore
chouette. C'est entre les deux.
Et c'est l'oignon rouge aussi qui.
C'est l'oignon rouge qui est donc très sucré, mais qui est concentré, et que la chaleur de la braise, ou en l'occurrence du brûleur du gaz, fait ressortir encore plus. Donc en gros, vous avez dit la recette. Ce sont des oignons cramés, donc au barbecue ou sur le feu de la cuisinière pendant
avec
une
la
heure.
Peau ou sans
avec
la peau.
Avec la peau, bien sûr. La peau peut même fumer et flamber. Puis on les pèle.
On fait attention à la maison.
Ne refaites pas ça chez
vous. Non, c'était limite hein, chez moi. Ouais. On n'est pas loin du fait d'hiver, là, quand même. Pelé, on détaille, bien sûr, en lanière, en quartier. Mm-hmm. Huile d'olive, sel, poivre, coriandre. On peut mettre de la ciboulette. Si on n'est pas fan de la coriandre, on met autre chose. Même pas forcément d'herbe. Et j'ai ajouté un tout petit trait de citron vert. Parce que j'aime bien. C'était pas dans la recette de Mauro, mais je me suis dit que ça ne pourrait pas nuire.
Ah, la petite touche d'Elvira.
Je vole et je trafique.
Elle revisite Mauro.
C'est un franchement maquillé.
Recette simple, ultra approuvée, tout à fait étonnante. Et ça, pour les tablés d'été, c'est absolument parfait. Sur la table d'été, il y a évidemment l'assiette, mais il y a également le verre. Est-ce que notre ami Antoine pourrait tenter justement un petit accord? Alors là, Antoine, vraiment, vous vous engagez sur un terrain un peu miné. Évidemment, agape d'été, en général, rime avec rosé. Il paraît que les Français sont les premiers producteurs au monde de rosé, les premiers consommateurs également. Et en France, une bouteille sur trois ouverte est de couleur rosée. C'est incroyable.
C'est incroyable, mais alors il faut rapprocher ça de bonnes choses et de mauvaises choses.
Bien sûr.
Les bonnes choses, c'est une très vieille histoire. Hein. C'est la Provence qui tient ce sujet et qui enviait aujourd'hui. C'est pas pour rien que Brad Pitt, tous ces stars, et puis surtout des très grands noms du grand champagne, notamment, investissent la Provence. Mais c'est aussi, malheureusement, ça rappelle, les chiffres rappellent une distribution. Nous sommes les champions de la grande distribution, et le rosé aujourd'hui un produit leader, tête de gondole, comme on disait dans les années 80, du rosé. Et donc, trois bouteilles achetées, trois offertes, on est un peu dans ce style-là, et puis le bibs, enfin voilà, on est bon. C'est pas toujours pour des bonnes raisons, alors il fait que ça passe bien, parce que c'est dans le réfrigérateur que ça sort à 4 degrés, ou alors on met des glaçons au bord de la piscine, et donc le froid, de toute manière, enlève toutes les arômes, de manière, il n'y en a pas beaucoup, généralement.
Ça anesthésie le vin, hein.
On va parler d'autres choses.
Ça anesthésie les défauts.
Dans l'émission, on va parler d'autres choses, mais voilà, ça anesthésie. Et puis non, mais je pense que ça libère l'esprit, quand on boit un verre de rosé, on oublie tout, on pense pas vin. C'est là aussi que le monde de vin a complètement loupé, moi le premier, j'ai souvent fait le procès du rosé, et à côté il y a les consommateurs qui ont plébiscité ce vin, parce que c'est pas du vin quelque part, c'est une fête, c'est à l'instant, c'est le tempo des vacances, c'est voilà. Et donc c'est ça le succès du rosé. Maintenant qu'on est amateur de vin, effectivement, bon bah c'est comme une petite série sur une chaîne que je citerai pas, mais on s'ennuie assez vite, et donc voilà, ça donne envie de... Mais à des jeunes aussi, bon, un verre de rosé, c'est aujourd'hui, quand on a 18-19 ans, le premier verre de vin qu'on boit, c'est souvent du rosé. Donc c'est aussi initiatique. Donc voilà, ne crachons pas sur le rosé, mais ça explique. Et la couleur de notre oignon, puisqu'on revient sur l'oignon, elle est complètement complètement. Elle parle du rosé. Elle est avec des reflets un petit peu mauve comme ça. Donc moi, je penserais un rosé, mais un rosé plutôt du Nord, un rosé de la Loire avec du Cabernet et pourquoi pas un petit peu de sucre résiduel pour répondre au sucre de l'oignon. Le Cabernet d'Anjou était une belle appellation, un peu aujourd'hui un peu déprimée, mais plein de vignons recréent ce Cabernet avec pas plus de 10 grammes de sucre résiduel et de l'acidité.
C'est ça qui est important.
Oui.
Et vous avez en particulier découvert un rosé pour lequel vous avez eu un très gros coup de cœur, Antoine.
Un très gros coup de cœur. Je viens de prendre une petite gorgée. Il va superbement avec l'oignon. Alors, c'est un rosé. Le rosé, c'est très aromatique. Le rosé classique est très aromatique. Ça sent souvent, on appelle ça les tioles. Ça sent le pamplemousse. Voilà, c'est un arôme. C'est marqué. Tous les rosés de Provence sentent le pamplemousse. Celui que je vous apportais, c'est pas trop pamplemousse. Ils sont pas grand-chose d'abord au nez. C'est d'abord un rosé de bouche. Mm-mm. Alors, il a une autre histoire. Le rosé, c'est du raisin rouge qu'on presse très très vite et qu'on essaye de traiter au froid pour le rendre très très transparent. Là, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose d'interdit, officiellement dans la catégorie des rosés, puisque c'est des raisins blancs, des raisins rouges qui sont récoltés ensemble et qui sont mis dans le pressoir et qui sont pressés. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de mélanger rouge et blanc. C'est un grand débat européen, mais voilà, la définition du rosé en France reste toujours un raisin rouge simplement pressé. Là, les deux sont mélangés et on est en Dordogne. On est dans un coin un petit peu délaissé en ce moment, du côté de Bergerac, très exactement l'appellation Montravel, et ce sont deux jeunes œnologues qui ont fait un très joli parcours bien avant de s'installer dans cette vallée. Ils s'appellent Aude et Sylvain, ils se sont rencontrés au pied de la cordillère des Andes, parce qu'ils ont fait leur grand road trip pour faire du vin dans le monde entier. Ils étaient originaires du Sud-Ouest, ils ne pensaient pas s'installer dans le Sud-Ouest, ils rêvaient plutôt de Banyuls ou du Muscadet, et là ils ont trouvé une terre qui leur convient tout à fait, et la première année, catastrophe, tout gèle, tout part de travers, il y a très peu de vignes, et ils ramassent tout, ces fameux raisins, ce sémillon, ce cabernet franc et le sauvignon, ils le mettent dans le pressoir.
Ça, c'est
et c'est devenu, voilà, et c'est devenu leur cuvée emblématique. Ça s'appelle Flaminque, mm-hmm. Donc c'est de l'Occitan. L'Occitan arrive à la frontière septentrionale en Dordogne, et donc ça veut dire flamand rose. Ça a de la texture,
qu'est-ce
ça craint.
Bon c'est vif, c'est salivant.
C'est salivant, et vous savez, c'est un peu comme on oppose, par exemple, la pâtisserie très sophistiquée, la pâtisserie familiale. Et ben moi, il y a un côté crumble. Ouais, c'est pas le lissage du.
Il y a une matière.
C'est ça. Il y a la texture, il y a le goût du raisin, et c'est
crumble de rhubarbe avec l'acidulé.
Exactement. Mmh. Voilà. Moi, ça m'avait fait penser à ces crumbles de saison avec les fruits qu'on peut récolter dans le jardin. Ben là, on a des fruits un peu de jardin, fait de vin. C'est très sérieux. Hein. C'est pas des gens boiteux qui font des vins nature à la Woulouse. C'est très très sérieux. Ils ont pas beaucoup de production. Ils font 20 000 bouteilles. J'ai mis sur le site d'On va déguster sur France Inter. Sept cavistes qui en ont fait le plein cet été, les malins, à peu près dans toute la France, parce que la propriété, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je rappelle, domaine de la Strée, Flaminque 2021.
Et les prix, Antoine ?
13-14 euros
ça
la
va.
Bouteille.
Enfin, ça va.
Dans cette catégorie-là.
Les gens vont certainement trouver que c'est cher pour un rosé, mais encore une fois, on a affaire à du vrai vin.
Artisanal.
Artisanal, et c'est important, un grand merci Antoine. Allez, je vous propose à présent de prendre la direction de Saint-Tropez, en compagnie de notre avocat gourmet Éric Morin. Mais attention, un Saint-Tropez sans paillettes et sans yacht, bouffeur d'énergie fossile. Un Saint-Tropez intimiste et paysan, et là encore, je crois qu'on va boire la vie en rose.
Eh oui, je vous propose une virée à Saint-Tropez. Alors on l'a dit, qui dit le sud, l'été, dit rosé et tapenade. Alors on va faire les deux. Alors le rosé, attention, hein, donc pas la bibine palote et sans âme autre que celui de son marketing de quatrième de couverture de magazine. Comme aurait dit notre ami Jérôme Gagnès. Non, un vrai rosé nature avec vue sur la baie de Saint-Tropez, le Clos des Baies de la merveilleuse Gwendoline qui s'est lancée avec courage et détermination dans cette aventure et qui arrose de son rosé les meilleures tables de la presqu'île. Peu habitué, mais ça vient doucement à des vins nature. Son rosé est un assemblage de Grenache et Cinsault, avec une superbe étiquette signée Michel Tolmer. Ses cuvées sont sans intrants, vinifiées avec les levures indigènes de leurs propres raisins. On peut donc boire frais et nature à Saint-Tropez avec le Clos des Baies. Ça vaut entre 15 et 16 euros et on a mis évidemment les coordonnées sur le site.
C'est bon ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien évidemment. Bah c'est le rosé de Provence qu'on connaît, mais avec plus de chair.
Ouais.
Et alors, vous savez qu'à Saint-Tropez, il y a un sol géologique qui porte le nom de Saint-Tropez. les gnaises mignatitiques de Saint-Tropez. Donc Saint-Tropez, c'est pas que du bling-bling, c'est aussi des racines et du terroir.
Très bien.
Et alors, on reste à Saint-Tropez pour accompagner ce rosé. Je vous conseille de vous précipiter sur une tapenade. Alors oui, François-Régis, je sais qu'on peut la fabriquer soi-même.
Ah, il fait des yeux à ma... les recettes de France Inter.
Voilà. Mais je vous ai apporté celle de Loïc de Salneuve, qui est installé à Colobrière.
Très bonne.
Il se définit comme chevrier, poète et paysan. Il fabrique avec son frère Geoffroy une tapenade moitié enchoyade parce que il y a un petit peu les deux.
Oui.
C'est un truc de fou que j'ai découvert récemment. Il fait aussi des fromages de dingue. Il fait aussi des confitures de fraises des bois que j'ai données à Elvira.
Bah alors, elles sont où, Elvira? C'est quoi cette histoire?
Pardonnez-moi.
Chez vous.
Elles sont en lieu sûr.
Merci pour les autres.
Oui, dans son sac.
C'est partageux.
C'est à tartiner sur tous vos apéros de la Côte d'Âge d'Ure. C'est en vente 12 euros sur le marché de la ville de Saint-Tropez les mardis et les samedis matins. Et c'est même en ligne. On a mis aussi les coordonnées sur le site. Si, sec, sun, rosé et tapenade. Ah, c'est la quinte royale de l'été.
J'aime beaucoup cette tapenade. D'ailleurs, on a la note d'anchois assez prononcée.
Pas trop salée.
Mais vous savez quand même qu'il y a forcément ce qui fait la différence entre une tapenade et une crème d'olive, c'est qu'il y a de l'anchois dans la tapenade.
Oui.
Tapes veut même dire en occitan, je crois, anchois. Voilà. Je sens ma science.
Quelle érudition, on apprend des choses.
De Saint-Tropez, on remonte au nord, direction le Loiret. On connaît tous, dans cette émission, et pour cause, on la cite régulièrement, Anne-Claire Hérault.
Superbe photographe dont on aime beaucoup le travail.
Exactement.
Très sensible.
Elle fait vraiment souffler un vent nouveau dans l'édition culinaire. On évoque souvent des livres dont elle a signé les photos. Eh bien, cette photographe a un autre objectif dans la vie. C'est Zazie qui nous parle de sa nouvelle vie.
Oui, donc Anne-Claire, elle est effectivement photographe. Elle se définit même comme photographe engagée. Elle réalise notamment beaucoup de reportages chez des agricultrices, des agriculteurs, des artisans. Et elle a signé le livre Nouvelle Auberge cette année avec le journaliste Victor Coutard, où elle faisait le tour de France des nouvelles auberges où on mange et où on boit bien.
On l'avait évoqué,
je crois qu'elle dira, on avait parlé.
Vous en aviez même fait un coup de cœur de ce livre.
Et à force de rencontrer des gens, Anne-Claire, des gens qui ont des initiatives passionnantes, elle a fini par avoir envie, elle aussi, de monter son lieu. Alors ça s'appelle Au Bon Vivre, c'est un ancien salon de thé qui est à Yèvre-le-Châtel, dans le Loiret. C'est un très beau village avec beaucoup de pierres, très fleuries. Et Anne-Claire, elle s'est installée dans ce coin, entre la forêt d'Orléans et de Fontainebleau, car c'est aussi là que vit son compagnon, qui est maraîcher et céréalier.
Ah, bah ça tombe
Simon
bien.
Simon Ronceret, ça tombe bien, qui a la ferme des trois parcelles. Et Au Bon Vivre, ça sera ouvert tout l'été, donc du mercredi au dimanche de 10h à 21h, avec petit déjeuner, plat du midi avec évidemment les super bons légumes de Simon, gâteau préparé l'après-midi, planche avec vin naturel le soir. Et pour ce premier été, c'est Anne-Claire qui sera au fourneau, donc vraiment changement de vie, hein, même si elle continue à faire de la photo. Mais aussi pas mal d'amis chefs qui vont venir cuisiner, comme Valentine Guénin qui était chef chez Durance, très bonne chef.
Ah ouais.
Et voilà, et Anne-Claire, elle est persuadée, elle, que l'avenir est à la campagne. Donc elle a vraiment envie d'avoir un impact local dans un milieu rural, c'était vraiment son idée. Et elle a donc décidé de monter ce projet sous forme associative. Donc elle aimerait à l'avenir organiser des rencontres, des ateliers autour d'alimentation. Pourquoi pas un épisode de On va déguster.
Mais on y va tout droit.
Chouette, une grande classe.
On dresse le couvert dans le Loiret chez Anne-Claire Hérault.
Mais surtout que c'est une région où on va peut-être pas souvent et qui mérite d'être connue. Donc elle veut vraiment que ce soit participatif. Donc faut venir la voir cet été et pour venir manger, pour goûter les légumes de Simon et pour lui proposer peut-être de participer parce qu'elle a vraiment envie que ce soit un lieu comme ça qui se crée aussi à plusieurs.
Il y a du charisme, de l'intelligence et du talent chez cette Anne-Claire Hérault, photographe, cuisinière, aubergiste. Et tout ça avec les légumes de Simon. La ferme des trois parcelles, je veux pas dire en plus, mais c'est des légumes exceptionnels qu'on trouve dans de très jolis bistrots à Paris et ailleurs. Vraiment très belle initiative. Vous nous rappelez le nom du lieu, Zazie?
Alors le lieu s'appelle Au Bon Vivre.
Au pluriel, vivre.
C'est au pluriel et détaché, c'est un petit jeu de mots, Au Bon Vivre. Et c'est à Yèvre-le-Châtel. Et pour l'instant, il y a une page Instagram que je vous mets sur le site de l'émission.
Merci beaucoup Zazie, on va y accourir cet été.
France Inter.
3, 4. Allez-y.
On va déguster.
Chroniqueurs et chroniqueuses, attention, l'adrénaline va monter d'un cran. Avec, ça commence à devenir un piège traditionnel de notre ami, notre monsieur cinéma, notre ami Laurent Delmas. Petit blind test, évidemment, il va s'agir de cinéma. Hein.
Ben oui, oui, oui. Avec Laurent Thomas, on vous a concocté.
Il remet la faute sur notre réalisatrice, Laurent Thomas.
Pas du tout. Je l'associe à la perfection du blind test que vous allez écouter. Donc, vous allez entendre, chers amis, 5 extraits de films d'un même réalisateur.
Attention, alors.
d'un même réalisateur indice français. Il va falloir évidemment trouver le nom de ce réalisateur. Et plus vous trouverez le titre de film dans ce blind test, plus vous serez à même de l'emporter.
Donc vous allez écouter les règles du jeu. Voilà. Un nom de réalisateur, des noms de films. Ensuite, vous allez lever votre petite menotte et éventuellement...
Oh, du nom d'acteur.
D'acteur et d'actrice.
Hein, d'acteur et d'actrice. Le chef éclairagiste ne vous sera pas bien.
Ils sont 06.
C'est pas les gendarmes de Saint-Tropez, en tout cas.
Non, perdu. Rassurez-vous, Eric. C'est parti.
Ah, quelle bonne surprise.
Mais quelle heure est-il?
Non, je déjeune toujours avant, c'est plus calme. Tiens, je vous offre un morceau.
J'ai déjà mangé une tartine.
Non, oh, saloperie, ça bourre et ça nourrit pas. Je suis en train de me faire une omelette au cèpe. Alors, en attendant, voilà la recette. Et la terrine. Foie de volaille, hein. Alors, il n'y a pas question de refuser, parce que les cèpes, c'est moi qui les mets en beaucoup. Voilà une petite salade aux œufs durs et harangues mélangées. Alors, vous partez en voyage?
Je vais voir mes parents dans le Beaujolais.
Ah, la mère de Jean était de Morgon. Servez-vous bien, hein. Alors, vous profitez de vos petites vacances.
Ouais. En face de chez moi, il y a une vieille femme qui vit seule dans un immeuble. Juste en face. Et j'avais jamais remarqué avant.
On peut déjeuner. C'est complet. Ça a l'air bien vide. Ça a l'air, mais ça l'est pas.
Ah, monsieur. Je vous remercie de votre délicatesse. Vous m'avez attendu.
Ah,
voilà
du bœuf.
Ah, donne-moi mon bœuf. Il manque un peu d'oignon, cette salade de bœuf. J'aime bien parce que ça donne bonne haleine. L'oignon. Voilà. C'est l'avantage d'être célibataire, messieurs. On peut manger de l'oignon.
Dans ce chapeau, c'est délicieux, merci.
On devient pâtissier, mais on est rôtisseur.
Plein de sauces.
Ah, après, tu seras malade, hein?
De toutes les façons, elle le sera, alors. Autant qu'elle mange ce qu'elle aime.
Il y a des genièvres dans les cailles.
C'est indispensable.
Je le disais aussi, excellent. Hein?
Très bon, vraiment très bon. Un peu de cornasse.
C'est le meilleur vin d'Ardèche.
C'est le seul, à mon avis, le seul. Ville-Dieu.
Non, merci.
Si vous le permettez, je vais partager votre chocolat. Mais moi, je le prendrai avec beaucoup de lait, parce que le chocolat m'est chaud.
Niveau un peu relevé, hein?
Oui.
Oh, au moins aussi relevé que ma sauce au poivre vert.
Pas tout à fait quand même.
Alors,
écoutez,
attendez,
qu'on a vu.
Sacré devoir de vacances, hein.
On a quand même, pendant les extraits sonores de scène, on a quand même un nom de réalisateur, j'ai l'impression.
Et un ou deux acteurs. Voilà. Alors. Un film qui circule aussi.
Chacun fait ses jeux. Elvira, je crois que vous avez trouvé quand même le nom du réal.
Alors, le réal, c'est Tavernier.
Bravo.
Bravo.
Bertrand Tavernier,
bien sûr.
Et le deuxième extrait, je l'ai à peu près.
C'est
Philippe Noiret dans l'horloger de Saint-Paul.
Bravo. Très bien,
pas mal quand même.
C'est première scène d'ouverture du film.
Est-ce que vous avez d'autres éléments? Non, vous en sortez bien. Bien.
Premier extrait, j'ai reconnu Galabru.
Oui, absolument.
Oui.
Avec Nathalie Baye. Dans le restaurant que tient Galabru à Lyon. Et ça s'appelle Une semaine de vacances.
Une semaine de vacances.
Voilà. Moi, j'ai fait ma cancre, comme d'habitude. J'ai décroché. Au bout d'un moment, j'ai mangé les oignons d'Alvira qui étaient dans la salle. Je suis désolée.
Merci, ça sert à grand.
Je ne trouvais pas. Donc,
d'accord. Eric.
Est-ce qu'il n'y avait pas un moment un extrait de La vie et rien d'autre?
Ah non, il n'y avait pas La vie et rien d'autre.
Ah,
non, on mange pas beaucoup dans La vie et rien d'autre.
Oui, mais à un moment, j'ai cru qu'il était à la table.
Dernier extrait, il y a un Rochefort.
Bravo.
C'est la fête.
Que la fête commence.
Il joue de l'abbé Dubois face à Philippe Noiret. Le seul qui vous manque, au fond, c'est le troisième, un dimanche à la campagne, où on mange chapon, rôti, et puis Le juge et l'assassin, où on mange des cailles sur du cornasse en Ardèche.
Là, c'est Céro.
Non, c'est Noiret.
C'est Noiret.
Moi, j'ai cru que c'était Céro aussi.
Non.
L'assassin, c'est Noiret et...
Galabru, mais on n'entend pas Galabru dans cet extrait. Voilà, bon.
Le problème, c'est que Tavernier, il a été tellement prolifique que...
Oui, et puis surtout, on mange, on n'arrête pas de manger dans les films de Tavernier.
C'est ça, cinéaste,
on n'arrêtait pas de manger sur les tournages.
Et en bon lyonnais, il ne dédaignait pas l'assiette qu'il mettait souvent en scène dans ses films. Hein.
Exactement, oui, il y a vraiment beaucoup de scènes. C'est pas des scènes très très longues souvent, mais c'est lui-même disait, on se dit beaucoup plus de choses dans la vie à table que n'importe où ailleurs.
Et ce blind test était finalement la mise en bouche. Alors, il va rougir parce que je veux faire un peu sa promo. Mais ouais, sincèrement,
je quitte le studio.
Il le mérite vu la qualité de sa série d'été. Oui, une série d'été signée Laurent Delmas pendant tout l'été sur France Inter. Tavernier, le cinéma et rien d'autre. Une série d'été en 9 épisodes réalisée par Juliette Medevielle.
Oui. Absolument, je la salue.
Vous travaillez depuis pas mal de mois sur cette série. Ouais. Et ce sera tous les samedis, c'est bien ça, hein?
Oui.
À 10h.
À 10h. Et une rediffusion le lendemain soir à 21h après Le Masque et la Plume.
Bravo.
On
Tavernier.
Va se régaler.
Le cinéma et rien d'autre. On va se régaler tout l'été avec l'ami Laurent Delmas.
Merci.
Et ben voilà, les langues se délient sur le plateau dont on va déguster, les esprits s'échauffent, les appétits s'ouvrent. Et on va se détendre un peu là, hein, avec Horse Power for the Streets de Jonathan Jeremiah. C'est tout doux, vous allez voir, et ça va nous faire du bien. Bel été sur France Inter.
Come bring it in, brother, should you need it. I'll put your new rhythm for your spirit. All will be getting wild by the minute. Changes of the breeze, horsepower for the street. What it means is you got my devotion. How you face it all hot, wide open. It's your love up and setting these wheels in motion. Got me galloping full speed. If you need it, I've got your new rhythm for your spirit. This is a wild world, that's why I'm sending it. My love, harmony.
Cœur, recette conviviale, bonnes adresses, bonnes cuvées, on va déguster, vous invite à picorer ces bons plans gourmands de l'été.
On va déguster sur France Inter.
Et on prend la direction de la Bourgogne avec notre chroniqueur vin Antoine Gerbel.
Oui, et une Bourgogne que j'aime bien parce que dans les grandes villes, il y a une cuisine créative, on va vers des bistronomies qui bougent tout le temps. Et puis aussi, dans nos beaux territoires, il y a des repères qui ne bougent jamais, ça fait du bien aussi.
Alors là, on va pas très loin de Beaune, hein, c'est ça?
Exactement.
On n'est pas tout à fait dans le département de la Côte d'Or.
Donc on est à 10 minutes de Meursault, à Demigny, un petit village pas très connu, mais on retrouve une grande femme de la cuisine en Bourgogne, qui s'appelle Fabienne Parra. Fabienne Parra, ce nom est connu. Une grande tradition de cuisinier. Ses deux fils, un est étoilé quand même en Asie, l'autre est sur Beaune, il a une table qui s'appelle la Table du Square, où tout le monde vient se régaler de bons produits. Et Fabienne a été surtout connue parce que elle avait plusieurs vies, et notamment la tenue la nuit de Beaune avec un bar à vin qui s'appelait Le Bout du Monde. Qui n'a pas traîné jusqu'à la fin de la nuit au Bout du Monde ne connaît pas Beaune.
Ça sent le vécu. Il y a passé quelques nuits blanches.
Souvenir.
Exactement. Les 8 ans de nuit, ça use. Et là, on la retrouve vraiment dans sa cuisine. Elle a acheté un petit bouclard très sympa. Ça s'appelle simplement Cuisine et Cave. Donc cave, c'est-à-dire qu'on peut repartir avec des bouteilles sous le bras. Et puis surtout, on a un menu à 26€. Alors les escargots, le persillé, les tartes. Elle a un toucher pour faire des tartes avec vraiment son marché, parce que le marché est fait tous les jours. Il y a une trentaine de places, il faut réserver, parce que voilà, le bouche à oreille est là, mais quand on est sur l'autoroute, plutôt que de s'arrêter dans, je vais me taire, on sort à Beaune Sud, et voilà, vous êtes à un quart d'heure, réservé la veille ou l'avant-veille, et vous avez passé un bon moment, très calme, très posé, et puis des bons vins, la Bourgogne flambe en ce moment, les prix de Bourgogne, malheureusement, sont très élevés, elle connaît bien, tous ses copains sont vignerons, donc elle a toujours des petites découvertes et des petits bons plans, c'est-à-dire qu'on peut trouver une très bonne bouteille de Bourgogne aux alentours de 30-35€ au début de la carte.
Et évidemment, sortie Beaune, quand on se met à table, on boit avec modération, quand on reprend la route.
Et bien surtout, il y a un magnifique platane sur la place devant l'église. Il se pose sur le banc, tranquillement, en écoutant les chroniques de Jérôme Gagnès.
C'est ça. Il paraît qu'en plus, Demigny est un charmant village que je ne connais pas.
Ah oui, oui, qui est complètement à l'écart. On n'est pas dans la viticulture, hein. On est début de la plaine. Mais par contre, si on veut revenir sur les villages de Meursault, de Volnay, de Pommard, et ben voilà, on a 10 minutes, un quart d'heure.
Rappelez-nous, Antoine, le nom de cette belle adresse et de sa cuisinière.
Voilà, Cuisine et Cave, dans le 71, à Demigny, par Fabienne Parra et son équipe.
Très bien, un grand merci Antoine pour ce coup de cœur, ça donne vraiment envie de s'y attabler très vite. Bourgogne, la Bourgogne, c'est aussi la terre d'une écrivaine dont on peut visiter d'ailleurs la maison natale située à Saint-Sauveur en Puisaye. Alors là on est dans l'Yonne, hein, pas très loin, je veux parler évidemment de...
Colette.
Et oui, cette femme de lettres est en ce moment sur la table de chevet d'une certaine Elvira.
Mais elle est souvent sur ma table de chevet, Colette. « J'aime être gourmande », déclarait-elle en 1939 dans les pages du magazine Marie-Claire, où elle officiait comme chroniqueuse culinaire. Alors celle qui fut initiée très tôt par sa mère Sido au bonheur de faire la cuisine aimait tout. Et pas que la cuisine bourguignonne, même si elle la plaçait très très haut. Elle aimait les plats du midi, elle aimait les plats de Bretagne. Et ses romans sont émaillés d'odeurs et de goûts. La mie d'une miche de pain bis, le beurre rance, les fruits confits, le vin d'orange, les figues minuscules du marché de Brive, les œufs en meurette. Et je suis en train de lire un livre justement que j'avais jamais lu de Colette. Qui n'est pas le plus connu. C'est un recueil de textes, de portraits, de courts récits qui s'appelle « Prison et paradis ». Il y a là un magnifique dîner marocain. Et une pépite que je vais vous lire, c'est irrésistible. C'est un texte consacré aux poissons au coup de pied.
On vous écoute.
Est-ce une recette ? Non. Un accommodement culinaire primitif, vieux comme l'olivier, comme la pêche au trident. Jamais cuisson n'a demandé moins d'apprêt, il n'y faut que la manière. Ayez seulement une forêt provençale, tout au moins méridionale. Fournissez-vous-y de bois choisi, bûches cornues d'olivier, fagots de ciste, racines et branches de laurier, rondins de pin pleurant la résine d'or, menu broussailles de térébinthe. N'oubliez pas le sarment de vigne. À même la terre, entre quatre gros éclats de granit, bâtissez, allumez le bûcher. Pendant qu'il flambe, rouge, blanc, cerise, léché d'or et de bleu, il n'y a rien à faire que le regarder. Le ciel vert du crépuscule provençal, au-dessus de lui, tourne au bleu de lac. Les flammes baissent, se couchent. Vous avez sous la main, n'est-ce pas, une ou plusieurs belles pièces de poisson méditerranéen, tout vidé. Vous avez acquis à Saint-Tropez une rascasse monstrueuse à gueule de dragon, où vous avez apporté de Toulon les malins mulets à dos noir et vous n'avez pas omis, vidant ceci ou celle-là, de glisser tout le long de leur ventre creux un fuseau de lard. Bon. Apprêtez votre balai. J'appelle ainsi ce bouquet odorant de laurier, de menthe, de pèbre d'ail, de thym, de romarin, de sauge que vous avez noué avant d'allumer votre feu. Apprêtez donc le balai, c'est-à-dire qu'il trempe dans un pot empli de la meilleure huile d'olive mêlée de vinaigre de vin. L'ail, vous pensiez naïvement qu'on pouvait se passer de lui. Pilez jusqu'à consistance de crème. Rehausse le mélange comme il convient. Du sel, peu. Du poivre, assez. Attention. Votre feu n'est plus que braise bientôt, un lit épais de braise qui chante bas. C'est le moment de donner le magistral coup de pied qui envoie au loin bûches, brandons et fumerolles qui découvrent et nivellent le charbon ardent d'un rose égal, mettent à nu le cœur pur du feu sur lequel halète un petit spectre igné, bleuâtre, plus brûlant encore que lui. Un vieux grill à trois pieds haut, salamandre tordue au service de la flamme, reçoit le poisson béni de sauce et tout se plante d'aplomb en plein enfer. Là, vous n'en êtes pas encore à la maîtrise de l'homme de qui l'on ne voit que l'ombre sur le feu, le bras noir armé du balai aromatique, le bras noir sans cesse humectant, aspergeant, retournant le poisson sur le grill pendant combien de temps ? L'homme ne mesure rien, il ne consulte pas de montre, il ne goûte pas, il sait. C'est affaire d'expérience, de divination. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine.
Quel texte !
Waouh ! Merveille !
C'est pas Colette. La folie ce texte !
Oui, Colette dans mais ses Colette. Prouesses forestières, champêtres, incroyable.
Et très bien lu.
Cuisine d'un naturel.
Et pratique, parce qu'on a presque l'impression qu'on peut reproduire cette magnifique fou, hein. recette.
On le voit, on le balai.
Bravo pour les auditeurs qui ont été comme nous hypnotisés par ce texte de Colette. Vous nous en rappelez les références ?
C'est un extrait de Prison et Paradis, un recueil de textes que l'on trouve chez Fayard.
Très bien, et d'ailleurs on sait hein, que les ondes de France Inter ont fait la part belle à Colette, hein, une autrice qu'on peut redécouvrir à travers le podcast d'Un été avec Colette, la série signée Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, qui était diffusée l'été dernier et est sortie et parue en mai dernier. ce livre, tout simplement, Un été épatant, avec Colette, vraiment épatant, coédité par Équateur et France Inter. Un grand merci pour cette petite parenthèse littéraire, chère Elvira. Avec Zazie, notre été rime avec fermenter.
On va déguster. Sur France Inter.
Et vous nous parlez, Zazie, d'une boisson.
Oui, je suis désolée, je marche un peu sur vos plates-bandes, Eric et Antoine. Enfin, bon, pas tout à fait, car je vais vous parler d'une boisson sans alcool. C'est une boisson que j'adore et qui est parfaite pour se désaltérer l'été. Je parle bien sûr du...
Ah, moi j'ai une petite idée, j'adore. Boisson fermentée sans soda naturel.
Ça commence par un quart.
Kombucha. Kombucha.
Voilà, du kombucha. Alors, vous en avez peut-être déjà vu au rayon frais des magasins bio. C'est souvent la même marque, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais en fait, de plus en plus de brasseries artisanales se mettent à en fabriquer un peu partout en France. Moi, je suis allée voir Achille Mkhitaryan et Pierre Faudaudibel, qui ont monté la brasserie Archipel. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Avant d'être brasseur de kombucha, Pierre était chimiste organicien. Et je lui ai d'abord posé cette question primordiale. Le kombucha, c'est quoi?
Oui, alors le kombucha, c'est une boisson fermentée, initialement à base de thé. Donc on fait une infusion de thé, ensuite on la sucre et on met des micro-organismes, donc des levures et des bactéries qui viennent fermenter la boisson. Et ça nous fait donc une boisson pétillante, très peu sucrée et surtout très peu alcoolisée, considérée comme une boisson sans alcool.
Est-ce que vous savez d'où ça vient?
Le kombucha, ce qui est assez fou, et comme souvent les boissons fermentées, c'est qu'en vrai, il y a plein d'explications possibles et on se rend compte au final... qu'on sait pas vraiment. Au début, les anecdotes sur le kombucha, c'est que ça serait un médecin coréen qui devait soigner son empereur, et donc il va en Chine, et il revient avec cette mère de kombucha, et donc on appelle ça le kombucha, parce que c'était le thé du docteur Kombu. Après, pour moi, l'origine de la boisson, c'est de quelqu'un qui a laissé du thé sucré, qui l'a laissé un peu à l'abandon, peut-être un fermier, il y a 1000-2000 ans, et il y a un insecte qui est venu, une mouche, avec des bactéries sur elle, et donc elle s'est posée là, et ça a développé, donc, les bactéries sont mises à, les levures sont mises à manger le sucre, à faire un peu d'alcool, à faire un peu d'acide. Et de là, un peu, un processus un peu naturel a fait qu'on a eu la première mère de kombucha qui s'est formée. Et ensuite, le fermier est revenu, il a vu ça, il a goûté, il a trouvé ça bon, il a récupéré la mère, il a refait fermenter des choses avec ça. Et ainsi de suite, de fil en aiguille.
C'était le conte, hein, du kombucha,
ah oui,
la mère de
plus loin
kombucha. On pourrait dire la mer du kombucha.
Oui. Voilà.
Sachant qu'une mer, hein, c'est comme pour la mer du vinaigre.
Le vinaigre.
Voilà. On a affaire à cet agglomérat de... Exactement,
voilà,
la matrice.
C'est un peu le disque de cellulose, c'est un peu comme un gel, un petit peu visqueux. C'est l'habitat sur lequel se développent les levures et les bactéries. Donc là, on a tout ce qui est technique qu'on a bien en tête. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour fabriquer un bon kombucha?
C'est arrivé à avoir une boisson qui soit pas trop acide pour pas être trop proche d'un vinaigre, pas trop sucré parce que nous déjà on n'aime pas les boissons trop sucrées, mais en plus en termes de santé c'est pas terrible. Donc l'idée c'est d'avoir une boisson qui soit vraiment équilibrée. Bon, faut toujours utiliser des produits comestibles évidemment, mais on peut faire plein de choses. Et dans le kombucha, l'idée c'est qu'au début tu fais un kombucha simple, juste avec du thé, et ensuite petit à petit tu rajoutes des choses. Donc tu peux commencer en rajoutant des épices, en rajoutant des feuilles, des fleurs, des choses comme ça, et tu l'aromatises au fur et à mesure. Après tu peux rajouter des fruits, et en fait il y a quasiment que notre imagination qui peut nous arrêter. Nous, après, on va encore plus loin, parce que l'idée, nous, on a toujours travaillé sur un kombucha avec des ingrédients qui étaient français. Donc, notre sucre, c'est un sucre de betterave français. Nos aromatisations sont toutes françaises et le plus local possible. Et donc, on s'était dit, il reste cette dernière chose, c'était le thé, l'un des ingrédients principaux. Et on voulait donc le remplacer par quelque chose de beaucoup plus local. Ça intéressait à différentes feuilles. Et donc, on fait une gamme avec des feuilles de figuier, des feuilles de framboisier, des feuilles de cassissier qui permettent vraiment de remplacer aujourd'hui le thé.
Formidable, kombucha local.
Oui, alors moi je vous ai apporté un de leurs kombucha classiques à base de feuilles de thé, mais aussi ceux à base de feuilles de figuier, de cassissier, de framboisier. Alors il reste encore un tout petit peu de thé pour nourrir les micro-organismes, mais à long terme ils aimeraient vraiment qu'il n'y en ait plus du tout, pour vraiment avoir une boisson locale. Je vous ouvre une petite bouteille pour que vous goûtiez.
Mais carrément. Hop. Oh, ça fait le pchit, salvateur, à sa mousse.
Alors qui veut quoi? Là j'ai cassissier par exemple.
Ah, je veux bien cassissier moi.
Allez,
cassissier c'est assez un peu.
J'ai figuier donc.
Moi j'ai framboisier.
Moi c'est complètement cassis ce que je bois là.
Ah oui, la feuille c'est de cassissier fou. elle est assez impressionnante.
Mais même au nez.
Là François-Élise, vous devez avoir peut-être cassissier ou figuier.
Enfin de cassis. Il y a le bourgeon du
c'est
il y a
bonbon,
la feuille
cassis.
Du cassis.
Mmh.
Ouais. C'est très bon.
J'adore ça.
Très rafraîchissant.
Mmh. Il y a un petit côté toujours un peu acétique, hein, comme un peu un vinaigre au départ de sa fermentation.
Mais léger, léger.
Et très léger. Et surtout qui porte de la fraîcheur. Vous savez que le support aromatique des grands vins, c'est l'acétique. Ils en font un petit peu. On la combat quand il y en a trop, parce que bien évidemment, ça devient du vinaigre. Mais sinon, légèrement. Et là, on a une fraîcheur en bouche. Moi, j'ai de la figue, enfin, la fleur de figuier, c'est difficile d'extraire de la fleur de figuier quand même. Et ben, on a cette sensation très légèrement végétale et un petit peu doux du figuier.
Ouais, et feuilles de framboisée, c'est pareil, on a l'impression d'être le nez dans un buisson de framboise, en fait.
Non, c'est étonnant, des kombucha made in France.
Oui, c'est made in France, donc c'est ce qu'il expliquait. Et d'ailleurs, quand vous disiez avec le vin, tout ce lien qu'on peut faire, eux, ils travaillent aussi avec des sommeliers. Et leur idée, c'est de se dire aussi qu'on peut faire des accords avec du kombucha et faire tout un repas où on fait des accords avec les différents kombucha.
Voilà. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces kombucha?
Alors, vous pouvez les commander sur leur site, archipelkombucha.com. Donc, c'est 3 € la bouteille. Et je vous invite également à lire le livre de Pierre-Claude Audibel. Donc, ça s'appelle Kéfir et Kombucha, l'atelier de polyfermentation aux éditions Hugbar. C'est accessible au grand public et c'est aussi très érudit. Donc, il y a les deux côtés. Donc, si on est professionnel et qu'on veut se lancer dedans, il donne vraiment toutes ses recettes. Voilà, je vous mets toutes les infos sur le site.
Alors là, kombucha ultra validé.
Et plus sucré,
Antoine. Non, non, et sans alcool. Sans alcool, faut préciser. Voilà, parce qu'on peut aujourd'hui, on ne veut plus boire d'alcool. C'est superbe pour ça.
Laurent?
Non, je disais que c'est peu sucré. Faut le dire aussi, puisqu'on est très attentif au sucre. Ben, il y a très peu de sucre dans chaque bouteille.
J'ai un point commun avec Laurent Delmas. Un seul.
Non, pas un sommet, non. Un seul. Vous faites du mal pour rien.
Un lieu du Gard auquel nous sommes tous les deux très attachés. Cette magnifique ville d'Uzès. Où nous nous retrouvons de temps en temps,
Faut
Laurent.
Bien le dire, oui.
Et parmi les lieux de bouche que nous aimons à Uzès, surtout quand il fait chaud, il y a cette adresse, sous les arcades, de la merveilleuse Place aux Herbes à Uzès. Une adresse fraîche, voire totalement givrée.
Totalement, et d'ailleurs ça s'appelle La Fabrique Givrée, c'est
ah
son
là
nom.
Là, quelle adresse.
Voilà, fondée il y a 10 ans, en fait, les 10 ans de La Fabrique Givrée, fondée par Martin Chauche et le chef pâtissier Jérémy Runel, avec un beau pédigré de pâtissier auparavant. Ils fondent La Fabrique Givrée en Ardèche. La première boutique est en Ardèche. Et progressivement, ils vont essaimer sur les territoires. Alors, en ce moment, il y a 9 boutiques. Il y en a Paris, il y en a Uzès, on le disait, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Lyon, Tournon. Mais, et j'y insisterai dès maintenant, avant de vous parler réellement du produit, ce sont des glaces, et c'est quand même pas si mal, qu'on peut commander et se faire livrer dans toute la France en 48 heures.
Bravo.
C'est pour ça qu'on vous en parle comme ça. Vraiment, c'est...
On va se faire gronder par nos auditeurs, le bilan carbone de nos glaces, bon. Alors que paradoxalement, c'est des glaces avec des produits de terroir, naturels, de saison.
Zéro arôme, zéro colorant, des produits de saison, des produits en plus au plus près, c'est-à-dire que par exemple les figues, elles viennent d'Uzès, on le sait, c'est un seul producteur.
Je connais même le producteur.
Il est à Uzès, on le sait, c'est référencé, c'est dit dans toutes les boutiques, vous trouvez le code ADN de chacune des glaces, et chacune des glaces est sorbet, ça c'est très très bien fait. Bon, ben c'est délicieux. Je vous en ai préparé une pour chacun. Alors vous l'avez pour vous,
monsieur est généreux.
Oui, bien
alors,
sûr.
Merci. Bilan des courses.
Bon, bilan des courses. Zazie.
Moi, je pense que c'était fraise, peut-être. Non.
C'est rouge.
En fait, j'ai déjà fini. C'est pour
bon,
ça.
Bon, c'est de la cerise burla.
Ah, bah, pas du tout, j'étais très loin. Alors.
Non, quand même, bon, pas tant que ça. Eric.
Ouais, j'avais comme une sorte de tisane, il y avait des herbes dedans. Ouais,
c'est bien, c'est de l'infusion mentholée. Donc, c'est pas mal. C'est bien joué. Antoine.
Pour moi, c'est du basilic.
Bah oui, c'est du basilic, absolument. Voilà, voilà. C'est du pur basilic. Et c'est génial, hein.
Et c'est génial. On voit de nombreux chefs mettre comme ça des petites touches en ce moment, au printemps, pour accompagner une viande froide. Ça peut aller aussi sur le salé.
Bien sûr. Elvira?
Bon, moi, j'ai goûté la vôtre qui était de la mangue, parce que pour la mienne, je me régale, mais j'en ai un peu ma langue au chat. J'ai cru que c'était un agrume, mais non. C'est sucré?
Non, mais je comprends. Et moi, je l'ai goûté il y a 2 jours, et j'ai trouvé immédiatement.
C'est pas Physalis?
Non, c'est jus de carotte. Bon, mais franchement, là...
Alors maintenant que vous le dites...
Non, mais bon, écoutez, mais en tout cas, bon. Celle que j'avais goûtée était extraordinaire, mais vraiment, et on a l'impression, comme le dit Antoine, que ça pouvait être utilisé par les chefs dans des recettes salées. Et vraiment, c'était délicieux. La mangue est extraordinaire, je l'ai là. François-Régis?
Mais...
C'est du lait à la fleur d'oranger?
Non, il y a fleur d'oranger.
Il y a fleur d'oranger. Il y a un fruit.
Ah là là, parce que moi j'ai la fleur d'oranger.
Alors elle est là, juste avant la fleur d'oranger, il y a de la date. C'est date à la fleur d'oranger. Ça, c'est
la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, je l'avais hélico.
Ouais, c'est sublime. Oui, mais il y a comme ça des petits mélanges. Il n'y a pas de grand mélange, mais il n'y a pas de choses. Mais il y a des choses très, 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 très subtiles.
C'est délicieux.
Donc le jus de carotte, on adore. Et franchement, il y a toute une série de parfums. Bon, ben il y a pas de miracle. La mangue, il y a 60% de mangue. Si vous regardez une glace, enfin un sorbet à la mangue fait par, on ne dira pas les noms, dans votre supermarché d'à côté de chez vous, s'il y a 10% de mangue, c'est le maximum. Ça fait la différence, c'est tout. On mange de la mangue.
Voilà. D'ailleurs, mangue, chocolat, vanille, ça fait partie des rares parfums à la fabrique Givray avec des produits qui ne sont pas locaux. Parce qu'en général,
bien entendu,
petits producteurs d'Uzès, d'Ardèche, de la vallée du Rhône, de la Drôme, ils sont vraiment formidables, l'équipe de la fabrique Givray autour de Jérémy Runel.
Absolument. Il y a un citron gingembre aussi qui est à tomber. Il y a une glace pistache qui est tout à fait à tomber. Donc voilà, goûtez les produits.
C'était bon, quoi.
Il parle que de produits locaux. Effectivement, il y a pistache, il y a gingembre, curcuma d'Inde.
Citron totalement local. Citron totalement local. Bon, non, franchement, c'est un très bon producteur, de très beaux produits. Alors, il y a après toute une déclinaison de choses plus pâtissières. Pour les enfants, ils font les choses au moment de Pâques. Enfin, c'est des gens qui sont très actifs et qui dont les productions sont.
Elvira est en train de terminer.
Oui,
le
c'est
pont.
Ça. Je la vois. Je ne peux plus m'arrêter avec la date fleur d'oranger.
C'est addictif.
On se donne rendez-vous place aux herbes.
Oui, place aux herbes. Et puis
ma meilleure. Absolument.
Givray, ma meilleure, bien sûr.
Mais oui. Un grand merci, Laurent. Bah, on arrive au terme de cette émission. On va se quitter sans oublier de trinquer. On va trinquer avec une boisson un peu particulière. Là aussi, ça pétille, ça mousse, cher Maître Morin.
Eh bien, ce sont des bulles, mais c'est pas du vin. Et c'est une émission éclectique, parce qu'entre le kombucha et le vin rosé, ben, je vais vous proposer une sorte d'entre-deux. Alors, il n'y a pas que la Côte d'Azur dans la vie. Si vous passez en Auvergne, dans le département de la Haute-Loire, il y a du nouveau et des bulles. La boisson Quina. Antoine Vert, un avocat parisien, est originaire du Puy-en-Velay. Mais aussi, il est héritier de la distillerie Morin-Vay à Espaly-Saint-Marcel.
Ah, c'est votre cousin?
Alors non, ça s'écrit pas pareil. Mais pour les plus anciens, comme Laurent et Antoine, c'est cette distillerie qui fabriquait en 1906 le fameux Morin, qui était un vin de liqueur aromatisé aux cerises et qui était popularisé par une affiche où l'on voyait un grand diable vert. Alors Antoine Vay fait donc renaître cette distillerie en enfant du pays qu'il est. Et avec cinq autres amis, il lance un breuvage inédit. C'est un Selzer pétillant,
oui,
naturellement alcoolisé, donc on est à 5 degrés, aux arômes naturels du meilleur de la région. Alors, on a déjà parlé de la framboise, mais il y a la verveine, du Puy-en-Velay, la framboise et plein d'autres. La groseille, le citron, agrémenté de basilic, de gingembre et de menthe. En plus, c'est très faible en calories, contrairement à ce dont on parle beaucoup en ce moment, ce qu'on appelle les hard seltzers,
oui,
américains, le plus souvent, qui sont bourrés soit de sucre, soit de gaz carbonique, soit les deux. Et ils ont l'ambition, eux, d'être certifiés prochainement bio. C'est frais, c'est désaltérant, ça vaut 3,50€, c'est comme le prix d'une bière craft. C'est en ligne sur le site que l'on a mis sur le site de l'émission, et il y aura une boutique qui ouvrira cet été à la Tour Panessac, à Puy-en-Velay, 5 degrés d'alcool, et c'est frais.
La fête est plus folle.
Et la fête est plus
folle. C'est vrai que c'est pas du tout sucré, c'est même assez sec. C'est particulièrement floral et fruité, non? Franchement, belle initiative. Merci beaucoup. Maître Morin, il est le temps malheureusement de se quitter, de vous souhaiter un sapi d'été. Un dernier événement que je voudrais vous signaler, je m'adresse aux Parisiens cette fois-ci, c'est Satire Éphémère, un festival culinaire et culturel entièrement tourné vers la Grèce. Ça se passe dans une semaine, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet au Point Éphémère. Hein, on est quai de Valmy à Paris, Paris 10e, sur les bords du canal Saint-Martin. 3 jours de musique, de cinéma, de rencontres, d'expositions et évidemment de cuisine hellénique. Et pour ça, on peut compter sur le formidable Alexandros Raïs, fondateur de l'épicerie Profil Grec, pour ambiancer les assiettes et les cerveaux.
Un homme
merveilleux. C'est un événement très intelligent. Alexandros Raïs qui va garnir nos assiettes de feta, d'origan, d'huile d'olive, Satire Éphémère, pour fêter la Grèce au Point Éphémère à Paris les 1er, 2 et 3 juillet. Voilà, et c'est une transition toute trouvée pour vous annoncer qu'on va déguster Rommel Couvert dès le lundi 4 juillet, du lundi 4 au vendredi 8 juillet à 11h en direct pour une série d'émissions toutes fraîches sur les cuisines de Méditerranée. On va y retrouver d'ailleurs Antoine Gerbel, Jérôme Gagnès, Elvira Masson tous les jours.
Avec joie.
Et également Dominique Hutin avec des reportages, des recettes, du vin et des chroniques. Et nous aurons également une émission donc le jeudi 7 juillet à 11h consacrée à la Grèce. Tiens. Et pour la suite de l'été, on est allé fouiller avec notre réalisatrice Laurent Thomas dans les 4 dernières saisons dont on va déguster pour vous proposer le meilleur de l'émission qui sera diffusée tout l'été du lundi au vendredi de 11h à midi. Rendez-vous donc au lundi 4 juillet si vous avez encore faim. Oui, je sais, ça rime un peu moins.
On vous souhaite un été gourmand sur France Inter.